Je vous parle cet après-midi de la question des écoles et de l'éducation des enfants. On le sait, dans le mariage, la fin première du mariage, c'est la génération et l'éducation des enfants. Donc il est évident que cette question fait partie des points importants que les mères ou futures mères doivent aborder, y compris dans une retraite, ne serait-ce que pour faire le point, savoir où elles en sont sur cette question de l'éducation de leurs enfants. C'est un devoir donc pour les parents de donner une éducation catholique à leurs enfants. Cela coule de source. C'est leur mission par excellence. L'Église viendra à leur secours, puisque l'Église elle-même a reçu une mission, puisqu'elle est mère, qui est aussi, bien sûr, d'éduquer tous ses membres, et spécialement ses enfants. Cette mission, elle l'a reçue de notre Seigneur. Donc, les parents vont s'associer à l'Église naturellement, puisque tant les parents que l'Église ont reçu mission d'éduquer. Alors l'éducation catholique, l'éducation tout court, c'est un enjeu évidemment grandiose pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de la société. Tout le monde l'a compris. C'est pourquoi bien même les révolutionnaires ont parfaitement compris cette vérité. Si on a entre les mains les enfants, on saura former la société de demain. Il y aura toujours un décalage de temps, mais on investit à long terme et avec certitude lorsqu'on s'occupe des enfants, dans un sens ou dans un autre. Et on voit bien que, à la Révolution, dans les premières mesures, la plupart sont prises contre l'Église, mais il y en a aussi, très tôt, 1790, qui sont pour l'école, et avec un souci très précis d'embrigader les enfants pour les détacher de l'obscurantisme de l'école de l'Église. Alors je voudrais aborder cette question dans une perspective un petit peu plus large que celle de l'école, sous l'aspect de l'éducation. Donc je diviserai mon propos en trois parties. D'abord l'enfant, ensuite les parents et enfin l'école. Alors l'enfant, qui est-il? Alors on pourrait donner une définition un petit peu technique, pas très belle. C'est une créature rationnelle, comme tous les êtres humains, dont la raison et la volonté, et donc la liberté, sont en voie de développement. C'est ça la particularité, c'est que cet âge de raison ou cette âme rationnelle, elle est en devenir, elle est en épanouissement, elle n'est pas terminée, achevée. Alors on parle de l'âge de raison pour délimiter l'âge où l'enfant va être capable de discerner le bien et le mal, de savoir que ce qu'il fait est conforme ou non à ce qu'il doit faire, donc à sa fin, même s'il ne formule pas en ces termes abstraits, il sait que faire telle chose ou ne pas faire telle chose est bien ou est mal. Et c'est bien si ça le conduit à ce qu'il doit faire. Et c'est mal dans le cas inverse. Donc il connaît la loi de Dieu, ou au moins la loi naturelle, ou au moins les lois humaines ou parentales. Et à ce titre, il va agir conformément ou non par rapport à cela. Donc cette créature rationnelle, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un animal que l'on dresse, même si effectivement, il y a une période de sa vie où la raison n'étant pas pleinement apte à voir ce qu'il faut faire et sa liberté étant pas non plus apte à agir correctement, eh bien, il y a un aspect de l'éducation qui va être d'exiger sans réflexion, avec une obéissance radicale, sans avoir le pourquoi de la finalité, donc sans donner la finalité qui n'est pas compréhensible par le bébé, par l'enfant en bas âge. Et autre aspect de cette créature rationnelle qu'est l'enfant, elle est marquée à la naissance par le péché originel. et qui blesse sa nature. Ce qui fait que même avec les meilleurs enfants du monde, si on peut dire, il y aura de toute façon les conséquences du péché originel. Alors ces conséquences touchent l'intelligence, justement, l'ignorance, ce sera un des points caractéristiques, bien sûr, de tous les êtres humains, c'est qu'ils naissent ignorants. Avoir aussi de mauvaises tendances, tendance à se replier sur soi-même, tendance à chercher à se satisfaire soi-même, à faire des choses qui ne vont pas être bonnes. Et puis surtout, absence de la grâce. Au moins, évidemment, jusqu'au baptême. Donc, un état d'inimitié contre Dieu, jusqu'au baptême. Si on oublie cette perspective surnaturelle dans l'éducation, on ne va rien comprendre aux difficultés et aux enjeux grandioses, en même temps, de l'éducation des enfants. Vous savez très bien que tous ceux qui oublient que l'enfant a les conséquences du péché originel, vont se leurrer en pensant que l'enfant est naturellement bon, par exemple. Et donc, si c'est l'adulte qui le corrompt dans le cadre de la société, forcément, il faut essayer d'empêcher les adultes d'agir mal contre cet enfant. Donc, on va laisser l'enfant à lui-même. Et on oubliera bien que, étant lui-même porteur de germes de mal, si on peut dire, ces germes croîtront largement. Et l'absence d'adultes ou l'absence de contraintes de la part des adultes, l'absence de direction, d'éducation tout simplement, rendra l'enfant tout simplement malheureux. Et donc cet enfant, il a pour but, comme toute créature rationnelle, de connaître, de louer, de servir Dieu. On revient toujours à ce principe et fondement que saint Ignace met toujours en valeur en premier dans ses retraites. L'éducation doit donc intégrer cette finalité. C'est l'unique finalité de l'enfant. Ce serait le comble de l'oublier. Et puis l'enfant est un animal social, c'est-à-dire qu'il appartient à une société, il ne naît pas spontanément. Il grandit dans la société qu'est la famille, et la famille elle-même appartient à une cité. Donc les parents sont responsables de l'obtention des moyens dont il a besoin pour atteindre sa fin, mais non pas une fin individualiste, non pas une fin qu'il aurait à rechercher égoïstement, mais dans le cadre d'une société. Il est une partie d'un tout. Et il doit apprendre à tendre vers ce bien commun qui est le bien du tout. Donc l'éducation ne forme pas simplement un individu, elle éduque, on peut dire, un citoyen de la société civile, au bon sens de ce terme, et un citoyen de la société surnaturelle qu'est l'Église, donc un fils de l'Église, un enfant de l'Église, de Dieu. Alors de quoi a-t-il besoin donc de la part de ses parents? Alors commençons par le plus simple, il a besoin pour son corps d'être protégé, d'être nourri. Mais bien sûr, sans excès, au sens sans que l'on privilégie son corps comme s'il n'y avait qu'un corps. Et même dans les premiers âges, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler ou qu'il ne peut pas tout comprendre ce qu'on lui dit qu'il ne s'agit que de satisfaire ses besoins physiques. Son intelligence, elle est faite pour la vérité, pour connaître. Alors, comment pourra-t-il acquérir cette vérité? Eh bien, il faudra qu'on la lui communique. Elle n'est pas au fond de lui-même. Il ne s'agit pas pour lui de rechercher en lui-même toute vérité. Donc, il y a nécessité d'un enseignement de cette vérité, au sens très large du terme. Sa volonté, bien sûr, doit être portée au bien. Mais on a vu, elle est, comme l'intelligence, elle est marquée par le péché originel. Donc il y a des difficultés à faire le bien, comme il y a des difficultés à connaître le vrai. Alors, de quelle force l'aidera-t-on pour qu'il puisse faire le bien malgré parfois la répugnance à faire le bien, parce que c'est un bien difficile, ardu, et qui va le repousser? Ou bien qui devient difficile et donc qui va le décourager? S'il n'y a pas de force, s'il n'y a pas de vertu donc dans cet enfant, eh bien il abandonnera le chemin du bien. Sa sensibilité, elle doit être éduquée aussi. Elle fait partie de son être, elle fait partie de cette nature humaine. Mais elle doit être corrigée, puisqu'on a vu aussi que le péché originel a subverti, a renversé l'ordre. Et que la sensibilité, lorsqu'elle est laissée à elle-même, elle prend le dessus. Il faut donc l'éduquer, la remettre à sa place. Non pas la détruire, non pas l'ignorer, mais l'éduquer. Donc l'enfant a besoin de guide pour l'autorité, c'est l'autorité, pardon. Il a besoin de modèle à imiter, il le fera naturellement d'imiter, encore faut-il qu'il ait de bons modèles donc. Il a besoin de connaître sa fin progressivement et de mieux en mieux, et il a besoin que sa volonté soit fortifiée progressivement aussi. Il a donc besoin de la grâce et il a besoin de Dieu, qui peut seul faire tout cela. Alors, quels sont ces guides qui forment sa docilité et qui éduquent l'obéissance, qui lui rappellent qu'il n'est pas un tout, mais une partie? Eh bien, ce sont les parents, bien sûr, ce sont aussi les maîtres d'école, les professeurs. Ce sont ces modèles qu'il a, en famille, les parents d'abord, qui vont susciter un désir, un enthousiasme, un élan hors de soi pour entrer dans cette vie qu'il découvre peu à peu et dont il découvre les enjeux peu à peu. Et bien sûr, dans le cadre des connaissances, dans l'école, il y aura aussi les professeurs, les amis, les lectures, les textes qui sont étudiés, qui vont être des moyens de confronter de découvrir davantage à la fois la beauté, la grandeur, la difficulté de cette vie humaine qui est quelque chose d'universel et qui se retrouve dans la littérature, dans les faits historiques et puis plus tard dans la philosophie, qui va être justement une aide supplémentaire pour mettre en ordre dans l'esprit cette connaissance de sa fin. Et cette fin, lorsqu'elle est connue, elle est enthousiasmante, si elle a été connue. Trop d'enfants ou trop de jeunes, si vous voulez, d'adolescents ou de grands adolescents, ne sont pas enthousiastes dans la vie parce qu'ils ne découvrent pas dans la vie quelque chose d'enthousiasmant, tout simplement. Et s'il n'y a rien d'enthousiasmant, mais il n'y a pas de raison de s'engager dans cette vie, alors on y cherchera la facilité, les plaisirs, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis si on en a fait le tour, ben on quitte le manège. Le rôle des parents maintenant. Donc les parents, ils n'ont pas simplement pour tâche de pourvoir aux besoins physiques ou affectifs de leurs enfants. Ils vont, bien sûr, façonner cette âme chrétienne, et ce, dans une étroite collaboration avec le bon Dieu. La vie chrétienne à la maison, c'est doit être le premier souci des parents. C'est à eux d'éveiller leurs enfants aux grandes réalités naturelles et surnaturelles, qui vont permettre à l'enfant de découvrir, ce qu'on dit un petit peu de façon générale, la vie. Mais une vie qui est une vie sous le regard de Dieu. Alors pour cela, les parents veilleront particulièrement à donner un certain nombre de choses. Première chose, sans doute, le sens de l'autorité divine, qui doit guider leur vie. C'est-à-dire qu'ils doivent découvrir qu'ils sont créatures de Dieu, enfants de Dieu. Et vous savez que c'est le père de famille qui doit incarner cette autorité divine dans la famille. Et l'enfant doit comprendre à cette école de la famille, et spécialement du père, qu'il est créature et fils de Dieu. Alors ça ne s'explique pas par des discours, bien sûr, surtout à des âges petits, mais ça doit se vivre dans un premier temps. Et ça peut, bien sûr, se théoriser un petit peu plus au fur et à mesure que l'enfant peut comprendre. D'où le sens de l'obéissance, le sens de la justice, le sens de la bonté paternelle, qui est capable, une fois qu'il a sévi éventuellement, eh bien d'oublier. Pour montrer à l'enfant cette paternité divine dont il est l'enfant. Deuxième élément, c'est sans doute aussi le sens de la religion. L'enfant doit être religieux au sens de pratiquant la vertu de religion. C'est-à-dire une créature qui comprend que tout lui vient de Dieu et donc qu'elle doit tout à Dieu. Et on pourrait reprendre les quatre fins de la prière dont je vous ai parlé, puis dont Mgr Lefebvre a parlé le soir même d'ailleurs. La louange, l'action de grâce, l'expiation des péchés, bien sûr, parce qu'on voit qu'on fait du mal, et la prière. Et cette âme doit s'appuyer totalement sur Dieu. Voilà. Les parents doivent donner également le sens de l'appartenance à la patrie et à l'Église. J'y ai fait allusion tout à l'heure. On est citoyen de sa patrie. Et on est fidèle de l'Église en même temps. Le sens de l'appartenance à une terre dont on est un héritier partiel. Une société temporelle qui nous a donné beaucoup et qui donne toujours. Et puis, bien sûr, on est membre de l'Église. Et apprendre, puisqu'on est avec cette appartenance à ces deux sociétés, apprendre à rendre, dans la mesure du possible, à cette société qui nous a tant donné. Donc avoir le sens du sacrifice pour l'une et l'autre société. Après ces trois grands sens, ces grandes directions, quelque chose de plus individuel, qui est le goût du vrai et du beau. Et là, c'est le choix des loisirs, c'est l'éducation artistique de l'enfant qui vont lui apprendre la vérité, donc la vérité dans les connaissances, mais la vérité aussi dans les paroles, bien sûr. Les enfants sont très sensibles aux mensonges, et c'est une bonne chose. Quand ils le pratiquent, ils le sentent tout de suite et ils le savent, ils s'en accusent sans difficulté. Mais ils sont aussi très sensibles aux mensonges des adultes, qu'ils découvrent avec une espèce de grande déception. Puisque justement, les adultes sont, dans sa tête, les représentants de la vérité. Le choix des loisirs, le choix de... Oui, le goût à éduquer, c'est aussi une éducation du vrai. On doit occuper son temps à des choses qui valent la peine, qui enrichissent l'esprit, l'âme, l'homme tout entier. Et bien sûr, il y a des loisirs qui éloignent, qui avilissent, qui abrutissent, donc qui rendent plus animal que homme. Quand il y a une surexcitation de la sensibilité, je pense spécialement aux jeux vidéo, aux choses comme ça, où il est démontré de plus en plus les méfaits, indépendamment de l'immoralité de certains jeux, la durée provoque physiquement un certain nombre de dégâts qui peuvent être graves en fonction de la fréquence de ces jeux. Et puis surtout, il y a une absence de ce sens souvent artistique, justement, et il y a une absence d'élévation de l'âme. Et c'est aussi donc ce qu'il faut donner, c'est ce sens du désir du bien, ce sens de l'effort, du sacrifice et du don de soi. Mais ça ne doit pas rester que des mots. Il faut qu'il y ait des occasions de se donner, de faire des efforts. C'est dans la vie de famille, c'est en rendant service à l'extérieur, c'est en participant aux activités de la paroisse, du voisinage, etc. Il faut que les enfants apprennent avec leurs parents, qu'ils verront faire, la gratuité du bien que l'on fait. Et ça, c'est en famille, bien sûr, que cela s'apprend. Pas d'éducation du donnant-donnant, du paiement du moindre des services rendus par l'enfant, comme s'il n'était pas déjà largement débiteur. Mais s'il peut enfin, à partir d'un certain âge, donner de son temps, de ses services, rendre service, ça n'est que justice. Il faut lui faire comprendre qu'il y a dans la vie de famille, chacun participe au bien commun de la vie de famille et qu'il est normal qu'il y ait sa part, proportionnée à son âge, bien sûr. Autrement dit, il faut lui donner l'esprit d'enfance. Et l'esprit d'enfance, c'est à la fois un esprit de dépendance, mais aussi de confiance, d'audace et de don. Si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le premier dans le royaume des cieux. Donc la mission des parents est finalement de donner Dieu à leurs enfants et leurs enfants à Dieu, puisqu'il est leur créateur et leur sauveur. Alors tout cela doit être donné par les parents, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, d'où la nécessité de l'école, pour ce qui est de tout ce qui est de ce qui touche aux connaissances. Et l'école a reçu donc cette mission à la fois des parents, qui ont la responsabilité première dans l'éducation physique, naturelle et surnaturelle de l'enfant. Et puis, bien sûr, de l'Église, qui a la responsabilité première dans l'éducation surnaturelle de l'enfant. Donc, quelle école pour ces enfants? Eh bien, cela coule de source, une école qui va respecter ses besoins de l'enfant, qui va être le prolongement de l'éducation des parents. Et il ne peut pas y avoir dans cette école de contradiction avec la finalité de l'enfant, ni avec l'éducation des parents. Alors, quels sont les dangers d'une mauvaise école, d'une école laïque, d'une école sans Dieu? D'abord, pour l'intelligence, on a bien une ignorance pratique, ou bien l'oubli de la finalité de l'homme. On ne peut pas le nier. Une école où il n'est pas question de Dieu fait oublier, qu'on le veuille ou non, à l'enfant sa finalité. Deuxième écueil, pour l'intelligence toujours, c'est le relativisme de la vérité. C'est-à-dire que à force de dire qu'on va respecter toutes les pensées philosophiques ou religieuses, on finit par faire comprendre qu'il n'y en a aucune de vraie. Pas plus celle que l'enfant croit posséder ou possède réellement et dont on parle à la maison. Donc il va, sans même qu'on lui fasse de discours sur le relativisme de la vérité, en disant toutes les vérités se valent, quand bien même on n'irait pas jusque-là, ce qui pourtant se fera en année de philo, par exemple, et bien avant. Et quand bien même il n'y aurait pas cela, comme c'est mis en pratique, où chacun doit respecter, y compris l'erreur des uns et des autres, et ne pas juger, ne pas condamner, considérer que c'est normal que d'autres soient autrement, et il ne s'agit pas de montrer une vérité et des erreurs. Eh bien, à force de vivre dans ce côté pratique du relativisme, eh bien, l'enfant finira plus ou moins à être touché par ce relativisme dans sa tête. Donc on n'apprend pas à penser, mais on apprend dans ces écoles à assimiler une pensée unique, finalement, fondée sur le relativisme, mais aussi sur le matérialisme, l'hédonisme, la recherche du plaisir, et puis dans une forme politique de mondialisme qui est socialiste. Autre aspect, toujours pour l'intelligence, on privilégie l'utilitarisme et on oublie que l'homme, l'âme humaine, est faite pour contempler le vrai. Alors ça, c'est presque encore plus subtil. C'est que tout est orienté pour la réussite concrète. Il faut bien un métier. Il y a tellement de chômage que si on ne fait pas d'études concrètes, on ne trouvera rien. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une licence de philosophie ou de lettres classiques ? Alors, une fois qu'on a discrédité tout ce qui est de l'ordre contemplatif, littérature, philosophie, eh bien, on va évidemment dégoûter les gens de cela. Et on va les amener très facilement à trouver, dès le bac, des études qui seront exclusivement utiles, pragmatiques, concrètes. Et cette contemplation du vrai sera donc complètement handicapée. On forme beaucoup trop de techniciens et pas assez de contemplatifs. Alors que si l'on regarde dans l'histoire de l'humanité, les grands savants, les grands hommes qui ont fait même des grands tournants dans l'histoire, avaient tous fait des études littéraires, philosophiques, tout en étant ce qu'on a appelé des savants. Donc ils étaient compétents dans les mathématiques, dans les sciences, mais ils avaient bien sûr la possession des grandes littératures classiques, antiques, ils réfléchissaient sur le sens de l'homme, de la vie. Ils avaient donc une hauteur de vue qui leur permettait de regarder humblement même leur science, leur propre science, et de l'insérer dans un plan plus vaste, de mettre la science à sa place, qui n'est pas la première. Enfin, la science au sens de science naturelle. La vraie science, c'est la philosophie, c'est la grande science de ce qui, avec la raison humaine, va montrer les réalités par les causes les plus hautes. La pédagogie, dans ces écoles, va prétendre se passer du maître et ne va pas chercher à éduquer l'enfant. On ne va pas cultiver la docilité. L'enfant construit son savoir, dit-on. Alors, s'il construit son savoir, ben, on le laisse construire. Et l'adulte s'éloigne. C'est un petit peu ça. L'adulte n'est là que pour favoriser l'éclosion de cette découverte du savoir. Ben, on voit ce que ça donne. Toujours pour l'intelligence, l'absence de la maîtrise de l'analyse. Je passe sur les méthodes globales, l'analyse grammaticale, qui est largement remise au rang des accessoires, et qui va rendre l'enfant incapable d'analyser, donc de juger. Et quelqu'un qui n'est pas capable de juger ce qu'on lui présente, eh bien, gobe tout ce qu'on lui présente. Il suffit que ce soit agréable, brillant, attrayant, et on absorbe sans jugement. Et enfin, cela donne une fausse conception de la vie commune, et de la vie, bien sûr, tout court. Par rapport à la volonté, ces écoles ne vont pas donner le sens de l'effort, sauf exception. Celles qui veulent des résultats, qui trient leurs élèves, ça existe encore dans le public, mais c'est évidemment une infime minorité. Et ce n'est pas un effort qui est envisagé en vue de glorifier Dieu, bien entendu, de mettre en valeur ses propres talents au service de Dieu. C'est un effort qui est fait pour former une certaine élite qui pourra gouverner la masse qui suit. Il n'y a donc pas d'éducation des vertus. Et enfin, il y a bien sûr une immoralité ambiante. Et c'est ça le plus visible, c'est ça le plus, sans doute, le plus repéré, n'est pas forcément le plus grave, mais c'est grave, bien sûr. Les mauvaises fréquentations, le rôle du bon ou du mauvais exemple, et là, c'est souvent du mauvais exemple. Donc, il y a une facilité de la contamination du mal. C'est clair que ces écoles sont une école de mauvais exemples. Alors, est-ce qu'on peut laisser l'enfant sans référence à sa fin ultime, sans une imprégnation des enseignements qu'il reçoit de relative à cette finalité? C'est impossible. Si pendant les 8 heures où ils sont à l'école par jour, on leur montre comme idéal de vie ce qui est à l'opposé de leur fin, même s'ils sont bien éduqués à la maison, ils auront forcément la tentation qui est déjà en germe en eux, par les conséquences du péché originel toujours, eh bien de pencher vers cette vie du monde, cette vie de facilité tout simplement, et qui, en plus, est remplie de tout un tas de choses qui sont d'où Dieu est absent. Et spécialement, tous ces enseignements qu'ils reçoivent. Tous les enseignements ne sont pas mauvais, mais aucun d'eux n'est rempli de Dieu. Aucun d'eux n'est relié à leur foi, à leur religion, ou quand c'est le cas, c'est vu de façon relativiste. On étudie les religions, alors c'est bien. On étudie la religion, on étudie le christianisme, c'est bien. Oui, mais on vous montre qu'il y a eu un texte fondateur, la Bible, comme il y a eu le Coran, comme il y a eu le truc hindou, etc. Chacun a un mythe fondateur pour expliquer l'histoire du monde. Bon, ben voilà, il y en a, c'est Adam et Ève. Pourquoi pas ? Etc., etc. Donc l'enfant va se retrouver au contact avec des éléments de catéchisme, mais qui vont être souillés parce que mis à égalité avec les pires inventions humaines. On pourrait parler de l'histoire. Parlons de l'instruction civique. Je reçois à l'école Saint-Bernard les manuels, les exemplaires, les spécimens, comme on dit. Tous les ans, c'est grandiose. Donc, ils en font tous les ans. Là, cette année, comme il y avait 2007, l'élection présidentielle, l'Assemblée législative qui changeait, donc tous les éditeurs refont des choses plus actuelles pour montrer les derniers promus. Et les références, les thèmes, ça dépend des classes, hein, parce qu'il y en a dans toutes les classes, mais sont vraiment c'est des cours de politique socialiste. Et c'est une discipline qui pourrait, c'est le bruit court depuis quelque temps, faire l'objet d'une épreuve au bac, enfin en tout cas au moins, elle est déjà au au brevet des collèges, mais ils se disent, tiens, pourquoi pas verrouiller jusqu'au bac. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir, bien sûr, dans l'éducation civique, c'est pas la question, hein, il faut connaître... Mais on voit bien que ce sont des moyens très puissants de former les enfants selon un idéal qui est mondialiste, socialiste. Il suffit de voir les références, de voir les thèmes. Ce sont les mêmes dont on nous rebat les oreilles constamment, mais vous les trouvez enseignés comme vérité, presque dogmatique, dans ces cours d'instruction civique. Qui ne s'appellent plus, c'est comme ça d'ailleurs, excusez-moi, mais d'éducation citoyenne, pour être exact. Bon, ce sont des références philosophiques très précises d'ailleurs. Les changements de mots ne sont jamais gratuits. Et enfin, je pourrais étendre à d'autres cours, les cours de langue même. Les cours de langue, les livres de langue sont aussi... Alors, il y a les langues françaises, bien sûr, littérature. Je passe sur la mise de côté de la grammaire, qui est une espèce d'ajout à certains textes. Elle est prise comme... On va l'étudier de façon annexe et occasionnelle. Mais on a également donc les textes, le contenu des textes. Vous aurez tous les grands succès de librairie de l'année précédente. Vous les trouverez dans le nouveau manuel 2007, ça c'est sûr. Il y a déjà 3-4 ans qu'Harry Potter est dans les livres, donc traduit, et dans les livres de français, alors qu'ils ont... Enfin, etc. Bon. Donc, le choix même des textes, l'immoralité de certains auteurs et des textes qui sont mis. Et puis, alors, les langues vivantes, c'est plus ça que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, qui sont, là aussi, une mise en pratique de la société moderne. C'est-à-dire que vous n'étudierez que des thèmes qui font avancer la pensée et l'agir dans le sens révolutionnaire. Tous les thèmes à la mode, et qui sont évidemment thèmes sujets à discussion, mais discussions où en fait, celui qui aurait une discussion, enfin qui aurait une pensée droite, chrétienne, serait évidemment écarté parce que ce ne serait pas dans l'air du temps. Donc ce sont des textes qui font soi-disant appel au débat, à la discussion, mais qui mettent en valeur la position révolutionnaire. Petite actualité toute fraîche, vous avez peut-être entendu parler du film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui est un film roumain, dont le scénario, dont je ne connais pas les détails, mais enfin parle de l'histoire tragique d'un avortement clandestin, qui se termine mal ou je ne sais quoi. Ce film a eu la Palme d'Or. Je rappelle que même dans le cinéma, évidemment, dans ces palmarès, on a des visées très politiques et très sociales, qui sont fortes, évidemment. Ce n'est pas du tout le talent cinématographique qui est en jeu. Mais ce film a été choisi par une commission de l'éducation nationale qui élit un film par an. Ça a pour conséquence de l'éditer sous forme de DVD et de le passer dans tous les établissements du public. Alors, il était prévu que ce soit ce film, Palme d'Or, à Cannes, 2007. Alors, il y a eu un certain nombre de remous. Certains ont se dit, ben non, quand même, c'est un peu cru, il y a des images violentes, ça n'irait pas, il ne faut pas penser le faire passer dans tous les établissements. Il faudrait peut-être que la commission chargée de mettre... Les droits de visionnage, c'est-à-dire qui dit interdit au moins 18 ans, interdit au moins 12 ans, etc., il faudrait qu'elle mette une barrière quand même, c'est pas possible que tous les enfants voient ça. Alors ça a été, il y a quelques jours, la tendance, et là je viens de voir que, eh bien ça y est, c'est accepté, la commission vient de donner son feu vert, il n'y a pas de difficulté, ce sera donc un film qui sera visionné dans les établissements publics. En tant que film sujet à discussion, en tant que film qui fait réfléchir sur un problème qui n'est pas simple, etc., etc. Donc vous aurez ce DVD, va être envoyé à toutes les écoles de la République et tous les établissements scolaires le montreront à leurs enfants. Alors je ne sais plus s'il y a une limitation à moins de 12 ans, mais si vous réfléchissez, moins de 12 ans, c'est la sixième, puisque... dans la plupart des établissements, à part dans les nôtres, les enfants arrivent à 12 ans en 6e, grosso modo. Donc de toute façon, c'est tout le collège au moins qui y passe. Voilà ce qu'est une école sans Dieu, voilà ce qu'est une école révolutionnaire. Et ce qui est évidemment le toxique, c'est cette division, cette dichotomie entre la vie scolaire et la vie chrétienne, dans la famille, à la maison. Or, l'éducation, elle ne peut être efficace que lorsqu'elle est une. On ne peut pas être éduqué de deux façons, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire pousser une plante dans deux directions. Ça n'existe pas. Alors, je voudrais répondre à trois objections qu'on entend, surtout nous qui sommes dans les écoles. L'abbé Touvenot est recteur de l'Institut, où l'on étudie justement ce qui n'est pas utile. Donc, ça ne sert à rien. Et moi-même, je suis à l'école Saint-Bernard de Courbevoie, et puis un petit peu à l'Institut pour la formation des maîtres. Mais on entend souvent ces objections-ci. C'est bien d'avoir les enfants dans les écoles publiques ou sans Dieu, parce que ça leur donne un esprit critique. Donc ils savent, ils s'en rendent compte, ils entendent que, bah oui, ça c'est pas conforme à ce qui est entendu à la maison, à ce qui a été dit au catéchisme, mais... Et donc, c'est plutôt bien, ça les fait réagir. Pour avoir un esprit critique, il faut avoir des outils critiques dans son intelligence, avoir des capacités. Ça sous-entend donc que tout le monde, tous les enfants les ont. Ça sous-entend qu'ils les ont acquises. Où et quand ? À la maison. À la maison, vous n'avez pas forcément anticipé tous les domaines qui vont être abordés à l'école. À la maison, vous n'avez pas forcément averti de tous les mots et les mauvais exemples que l'enfant pourra découvrir à l'école, auprès de ses camarades, là, simplement, pas simplement des professeurs. Il est assez utopique de croire que les enfants sont... parce qu'ils ont manifesté à telle occasion une bonne réflexion sur leur professeur ou sur leurs camarades, qu'ils ne sont pas indemnes de tous les poisons qu'ils reçoivent. Deuxième objection, ça les empêche de vivre dans un cocon. C'est pas bon. Donc il faut pas, parce que quand ils vont découvrir le monde, la rupture serait trop importante. Ils tomberaient de haut. Alors c'est pour ça qu'il est bon que les enfants découvrent assez rapidement. On nous dit ça aussi souvent après le primaire. Le primaire c'est bien parce qu'il faut que les bases soient données, donc école catholique, mais après, pour le secondaire ou le lycée, c'est pas utile parce qu'il faudra bien qu'ils se préparent à découvrir le monde. Je ne pense pas que nos écoles et nos élèves vivent hors du monde. Donc c'est un sophisme. On fabrique une séparation absolue entre deux mondes, comme s'il y avait une planète et une autre, et puis un jour, il faudrait passer sur l'autre planète. Donc ici, sur Paris, je peux vous dire que nos enfants sont dans la ville, ce qui n'est pas forcément un bien, mais en tout cas, même ceux qui sont dans les internats ne sont pas des naïfs, des espèces d'enfants qui tombent de la dernière pluie. Donc pourquoi ? Parce qu'ils ont des familles, ils ont des contacts, ils ont des... En revanche, si on oublie cela pour l'éducation, on n'oublie pas, on n'a pas le même raisonnement pour le corps. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que la notion du cocon, la notion de la protection, elle est... radical et systématique pour tout ce qui touche au corps, ce qui est quand même étonnant. On va faire attention à ce qu'il mange, on va faire attention à respecter un certain nombre de... On aura un principe de précaution, pour prendre une expression à la mode, par rapport au corps, et pour l'âme, il faudrait qu'il y ait ce contact permanent avec le poison, avec le mauvais air. Donc là aussi, on a des raisonnements qui sont faux parce qu'on voit que, d'abord, il est faux de dire que nos écoles soient complètement coupées du monde, et quand bien même elles le seraient, ce qui n'est pas le cas, eh bien cela apporterait une santé mentale, intellectuelle, au niveau des capacités, qui rendra bien plus apte l'enfant à être en conflit, à entrer en contact avec l'erreur, que s'il est déjà empoisonné et dépourvu et complètement corrompu. Pourquoi ? Parce que nous leur donnons accès, entre guillemets, au poison pour en montrer la nocivité. Nous leur donnons des objections à l'intelligence qui fait que soit ils les avaient déjà entendues, ces objections, soit ils se les étaient faites, soit ils les découvrent, et soit ils les redécouvriront, entre guillemets, une fois qu'ils seront entrés dans le monde. Je n'aime pas cette expression, mais enfin, je prends la perspective de l'objectant. Et du coup, ils sauront y répondre. Le médecin qui étudie la médecine ne cherche pas à voir toutes les maladies pour pouvoir dire « je sais ce qu'il en est ». Ce serait un peu dangereux et ça écourterait ses études. Donc, pourquoi se dire qu'on ne peut pas connaître l'erreur sans y être confronté ? Ce n'est pas nécessaire d'être au contact de l'erreur pour la juger sainement et pour savoir y répondre. Et pour ce qui est des erreurs d'ordre moral, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'immoralisme, là, il n'y a pas besoin de le savoir d'avance, ce n'est pas en ayant... ce n'est pas le fait d'avoir été au contact de tout qui va faire que vous serez plus protégé, c'est l'inverse. Les tentations seront bien plus grandes d'avoir été confronté trop jeune à certains comportements mauvais. Et par rapport à l'instruction religieuse, une troisième objection, c'est vrai, il n'y a pas d'enseignement religieux. C'est vrai, la philosophie est complètement relativiste, c'est vrai, on ne parle de Dieu que pour s'en moquer. Mais heureusement, il y a le catéchisme du prieuré le samedi ou le mercredi, et donc tout va bien. Si vous comptez, le nombre de semaines qu'il y a à l'école, c'est entre 30 et 35, donc plutôt près de 35 que de 30. Donc admettons 35 cours de catéchisme aussi, puisque 35 semaines d'école. Dans les séances de catéchisme, vous avez à peu près 2 heures. C'est bien quand il y a 2 heures. Sur les 2 heures, vous avez 1 heure de catéchisme et 1 heure éventuellement de confession, de chant, d'activité un petit peu annexe. Je me fie à ce que j'ai observé à Saint-Nicolas quand j'étais à Saint-Nicolas pendant 3 ans. Eh bien, donc vous avez en fait une fois par semaine 1 heure. Multiplié par 35, ça fait 35 heures. Vous comptez le nombre d'heures où l'enfant est à l'école. Là, je ne sais plus combien ça fait, mais enfin, vous essayez de voir. À raison de 35 heures par semaine, à peu près, vous multipliez 35 par 35. Et donc, on a ici encore quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas le problème de l'heure de catéchisme. Un enseignement chrétien, ce n'est pas un enseignement du catéchisme. C'est autre chose. Un enseignement chrétien, c'est un enseignement qui respire le christianisme. C'est pas la question de l'instruction religieuse, qu'on appelle cours de catéchisme. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, bon, alors on le fait, on double les heures. On va en faire 4, 2 à la maison, 2 avec le prêtre, au prieuré. Ça n'est pas plus ça. L'enseignement chrétien, c'est un enseignement où l'enfant se retrouve régulièrement rappelé à sa finalité chrétienne. Ça ne veut pas dire que les mathématiques doivent mettre 3 chapelets plus 2 dizainiers égale des choses comme ça, ce qui d'ailleurs n'est pas réalisable. Mais c'est en tout cas que l'enfant, ne serait-ce qu'avant ses cours, dise une prière. Que ses professeurs ne se moquent pas de la religion. Au contraire, la mettent en valeur, en littérature, en langue vivante. etc., etc. En histoire, qu'il ait un jugement sur l'histoire, d'abord qu'il ne soit pas faussé, qu'il ne soit pas marxiste, qu'il ne soit pas nouvelle histoire ou autre conception plus récente, qu'il soit une histoire chrétienne. Combien d'enfants connaissent leur histoire de l'Église ? Très peu. Eh ben, où voulez-vous qu'ils l'aient apprise si jamais ils sont dans une école qui n'est pas catholique ? Donc une école avec Dieu maintenant, qu'est-ce que ça apporte ? Bien sûr, le contraire, mais je voudrais me limiter à d'autres aspects. N'oubliez pas que dans une école où le bon Dieu est, il l'est réellement. C'est-à-dire que l'enfant peut aller le voir au Saint-Sacrement. Dans une école avec le bon Dieu, il y a un prêtre ou un aumônier. Quand je dis aumônier, je pense aux écoles dominicaines. Donc on va pouvoir se confesser. On va pouvoir demander conseil. Et dans les écoles de garçons, c'est plus que cela, puisque c'est tous les jours. Ils sont éduqués partiellement par les prêtres. Donc il y aura à la fois une vie sacramentelle et une vie scolaire, et les deux ne feront qu'un. Autrement dit, l'enfant ne sera pas schizophrène, c'est-à-dire découpé en deux, avec « Ah ben je suis à l'école, donc je tais que je suis chrétien, je tais que je suis catholique, traditionnaliste, etc. Je baisse les yeux, je longe les murs. » Et puis après, arrivé à la maison, ça y est, je peux éventuellement dire ce qui n'a pas été dans la journée. Ça aussi, entre parenthèses, l'illusion que certains parents ont de se dire « Mon enfant me dit tout. » Et donc, je sais exactement comment il faut corriger le tir tous les soirs. Alors, ça sous-entend d'abord, c'est un externat, bon, ce qui est le cas souvent. Mais c'est complètement illusoire. Les enfants ne disent pas grand-chose. Nous, on voit bien, même dans nos écoles... Moi, je suis dans un externat, une demi-pension, donc. Mais les parents ont connaissance plus directe de ce qui se passe dans une école, comme à Saint-Bernard. Mais certains se taisent complètement. Ça dépend des tempéraments, des caractères. Il n'y a pas du tout une loi qui fait que... Alors, dans les petits, si, ils ont tendance à dire. Mais très vite, cinquième, quatrième, troisième, n'en parlons pas, ils se taisent. Donc les parents ne connaissent pas du tout. Et ben c'est pareil dans les autres écoles. Est-ce que si on faisait un sondage, est-ce que toutes vous racontiez tout ce que vous faisiez à l'école dans la journée ? Je suis sûr qu'il y a un gros pourcentage qui dirait non, ça ne m'intéressait pas de raconter ce que je faisais. Donc, et on est tous comme ça, on est tous différents. Donc c'est une illusion de croire que les parents vont pouvoir contrecarrer. Et puis en plus, l'enfant perçoit certaines choses mauvaises, tant mieux pour lui. Mais il y en a d'autres, il ne les perçoit pas mauvaises. Comment voulez-vous qu'ils disent que c'était mauvais à la maison ? Donc c'est une illusion. Présence du prêtre, et puis vie sacramentelle, bien sûr. Présence de camarades catholiques. L'importance de l'amitié dans la formation du caractère. Ça, c'est important. Et donc, l'importance des bons exemples. Alors, bien sûr, il y aura toujours des mauvais exemples. Il ne faut pas rêver non plus dans nos écoles. Je vous ai dit, ils sont du monde aussi. Mais pas du monde le pire. Pas du monde où on laisse tout faire. Donc, il y a des péchés, bien sûr. Il y a des pécheurs, tous. Mais on est là pour leur dire qu'ils sont pécheurs. Et ils l'entendent dire. Et en même temps, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont... destiné à l'héroïsme de la sainteté. Et ça stimule. Et puis, il y a les moyens sacramentels de recevoir justement les soutiens dont ils ont besoin dans leurs difficultés. Ils font des retraites. Nous les faisons ici même. Donc, on vient en février, enfin en septembre, il y a les terminales. Et puis en février, il y a seconde première, quatrième, troisième, seconde première, qui se succèdent en deux retraites. Donc ils réfléchissent, ils ont la possibilité de dans le cadre de la scolaire, d'avoir ce que vous venez d'avoir. Alors ça dure moins longtemps, mais c'est sur 3 jours simplement, mais à leur âge c'est proportionné, et ils ont l'occasion de réfléchir sur leur vie. Pour terminer, je voudrais rappeler ce que dit le pape Pie XI dans son encyclique sur l'éducation, qui s'appelle l'encyclique Divini Ilius Magistri, qu'il a publié en 1929. De là, il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait elle devient irreligieuse. En disant, non, c'est une école laïque, votre enfant, on respectera parfaitement ses opinions religieuses. Comme si la religion était une opinion, comme si la foi était une opinion. Inutile de reprendre ici tout ce qu'ont dit sur cette matière nos prédécesseurs, notamment Pie IX et Léon XIII, parlant en ces temps où le laïcisme commençait à sévir dans les écoles publiques. Nous renouvelons et confirmons leurs déclarations et avec elles les prescriptions des sacrés canons, c'est-à-dire c'est rentré depuis 1917 dans le droit canon, c'est-à-dire la loi de l'Église. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes, celles à savoir qui s'ouvrent indifféremment aux catholiques et non catholiques, sans distinction, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, c'est-à-dire du curé pour vous, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. Donc les exceptions, elles peuvent exister, mais elles sont à déterminer par le curé. Voilà la loi de l'Église. Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte, plus déplorable encore si elle est unique et obligatoire pour tous, où l'instruction religieuse étant donnée à part aux élèves catholiques, ceux-ci reçoivent tous les autres enseignements de maîtres non catholiques en commun avec les élèves non catholiques. Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse, souvent avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme au droit de l'Église et de la famille chrétienne, au droit de la famille chrétienne, et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. Alors réfléchissez bien, je sais très bien qu'il peut y avoir des cas où la fréquentation des écoles catholiques traditionnelles n'est pas possible pour des raisons ou pour d'autres, ne serait-ce que parce que nous n'offrons pas la possibilité à des formations techniques, manuelles. Donc ce n'est pas du tout pour ces enfants-là qu'il s'agit de se dire « bon, ben, je suis en décalage par rapport à ce que dit l'Église ». Mais réfléchissons bien à lorsque tout est possible. Ou bien, même si lorsqu'il y a des sacrifices à faire, parce que malheureusement nous ne sommes pas aidés, donc il faut bien qu'il y ait une participation financière des parents, même s'il y a un sacrifice à faire, que ce sacrifice ne soit pas évité pour préférer d'autres choses. C'est-à-dire que c'est l'éducation de l'enfant qui est votre premier devoir. Ce n'est pas la possession d'une maison secondaire ou des vacances coûteuses qui sont d'abord auxquelles vous devez d'abord subvenir. Et d'autre part, ayez cette logique dans l'éducation de vos enfants. Souvent, il y a des parents qui font des efforts, et très louables, et puis qui se disent, notamment après le bac, eh bien, c'est plus la peine, ça y est, maintenant c'est terminé, on fait sans penser à une école catholique. Alors bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose, je citais l'Institut tout à l'heure, c'est le seul que nous ayons en supérieur, mais pensez-y notamment. Ce n'est pas normal que beaucoup de nos jeunes traditionnalistes fuient, j'allais dire, l'Institut notamment, où on a un enseignement qui est catholique, avec des professeurs d'une compétence exceptionnelle souvent, et qui préfèrent une université qui les déforme et qui leur fait oublier leur fin catholique.
Alors on dira, oui, mais là, ils sont grands, là, c'est beaucoup moins grave. En apparence, oui, mais en tout cas, c'est bien contradictoire. Puisque s'ils sont en pleine formation, c'est qu'ils ne sont pas formés, et donc, on est en train de les former dans un cadre où les outils de leur formation ne sont pas ceux qu'un catholique pourrait avoir. Alors, je mets de côté, là aussi, toutes les formations scientifiques, puisque là, nous ne les proposons pas. Donc, je limite à ces formations qui sont, justement, les formations libérales, au sens d'étudier pour elles-mêmes, parce que touchant les choses les plus abstraites et les plus importantes de l'esprit humain, philosophie, littérature classique et histoire. Donc, attention à ce manque de logique qui, malheureusement, parfois se paye. Et on voit des jeunes qui ont été bien éduqués, qui ont été, dont les parents ont fait des sacrifices, hein, et ça n'est pas peu dire, et qui se retrouvent comme libérés après de ces écoles largement insupportables. Il suffit de voir toutes celles et tous ceux qui y sont passés, les monstres que cela devient. Et donc, une fois libérés, ils vont enfin dans des établissements normaux, comme si c'était un objectif à atteindre que de se retrouver là où le niveau est faible, là où la population est complètement bigarrée et au sens de beaucoup de gens qui ne font rien, d'étudiants qui sont à la dérive, et donc l'émulation risque d'être très très faible. Donc attention à ce manque de logique qui peut être fatal à certaines personnes, en tout cas, même si beaucoup vont s'en sortir, auront des diplômes, bien entendu, ça n'empêche pas. Mais gardez cette logique intégrale dans l'éducation des enfants dont vous aurez un compte à rendre à la fin de votre vie. Voilà. Alors, déjà ou enfin, c'est bientôt effectivement la fin de cette retraite. Alors que, peu importe que ça soit ce sentiment du déjà ou du enfin, il vaut mieux que ça soit celui du Deo gratias. Et pour conclure, je voudrais aborder deux aspects. Le premier, c'est de voir les petits dangers qui vous guettent en revenant demain chez vous. Et le deuxième aspect, c'est bien résumer finalement cette retraite et voir que les résolutions que vous avez envisagées vont être des moyens par lesquels Dieu va régner sur vous et régner par vous. Autrement dit, je vais, dans la deuxième partie de mon exposé, aborder quelques résolutions, mais non plus sous leur aspect matériel, de dire, voilà, il faudrait prendre ci ou prendre ça, mais voir l'esprit dans lequel il convient de prendre ou d'avoir cette résolution, ou de tenir, parce que pour beaucoup, il y a des choses qui étaient évidemment déjà en cours. Alors, tout d'abord, les petits risques de l'après-retraite, du retour. Vous avez profité de journées, généralement, de paix, de joie, spécialement depuis la confession. Et ce sont des grâces que le bon Dieu donne à ceux qui s'adonnent à lui. Et il est évident que c'est comme un petit nuage sur lequel on est et qui risque de disparaître sous un certain aspect. Donc le risque, ce serait de se décourager dès lors que justement on ne verrait plus cette paix, cette joie, cette facilité à ne pas pécher, puisqu'on est dans un cadre qui s'y prête. On n'a pas parlé, donc il n'y a pas de péché par la parole. On n'a pas eu à s'occuper de personnes avec lesquelles on ne s'entend pas ou des choses comme ça. Il y a eu donc beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles à notre vie quotidienne qui ont été suspendues
plus que supprimer. Et donc il faut s'attendre à reporter la croix sur notre épaule, mais avec de nouvelles forces. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à revivre ce que l'on a vécu, même si il y aura des ressemblances plus matérielles que formelles. C'est-à-dire que plus, c'est vrai, vous allez retrouver les mêmes personnes, mais la grâce aidant, vous ne les aborderez pas de la même façon. Et c'est cela en quoi il faut croire. Je voudrais reprendre l'idée que Mgr Lefebvre développait à midi sur cette notion de mission de charité. Comme le Père a envoyé le Fils nous envoie. Et tous, nous avons une mission de charité. Nous sommes envoyés par le Fils. Eh bien, cette idée qui est venue évidemment à midi, là, je me dis, c'est ça la retraite. Le retour de retraite, il est là. Chacun doit se rendre compte qu'il a reçu, qu'elle a reçu, chacune, vous devez vous rendre compte que vous avez reçu de Dieu, du Christ, et que vous allez devoir, vous êtes envoyé pour donner une part de cette lumière, une part de cet encouragement à la vie chrétienne. Et même si la croix revient sur vos épaules, c'est, je le répète, une croix qui ne sera plus portée de la même façon, ou en tout cas qui ne doit plus être portée de la même façon. Donc évidemment, on ne vous promet pas la suppression des croix qui pourrait le faire. Mais la grâce peut vous donner, si vous vous y ouvrez, cette force nouvelle de l'embrasser plus généreusement et donc de la porter avec plus de légèreté, parce que vous le savez bien, plus on la fuit, plus elle est lourde. C'est ce paradoxe qui n'existe que dans la vie surnaturelle, qu'un poids, une charge dont on s'éloigne, finalement, est plus lourde, ce qui n'existe pas dans la vie physique. Autre écueil, ce serait de croire que ben, il n'y a plus de problème dans votre vie intérieure parce que, justement, vous ne vous êtes pas mise en colère, vous n'avez pas été gourmande, vous n'avez pas été paresseuse, vous êtes levée aux bonnes heures, etc. Donc, ça y est, la sainteté est acquise. Et en 5 jours, c'est plutôt rentable. Alors, cette espèce d'angélisme risque évidemment de disparaître lui aussi très très vite. Mais en même temps, il ne faut pas considérer que vos résolutions seront impossibles à tenir. Parce que ce serait aussi l'autre écueil. De toute façon, je sais très bien que la preuve, je l'ai déjà, c'est que j'ai déjà fait des retraites. Et quand je suis revenu de retraite, c'était très peu de temps après, ça y est, il n'y avait plus rien. Il n'y avait peut-être plus rien rapidement après la retraite parce que vous n'avez pas cru à la grâce. Vous y avez cru pendant la retraite parce que vous receviez de Dieu des consolations. Et quand le bon Dieu vous a remis sur le chemin, vous a fait à nouveau rouler après vous être reposé sur l'aire d'autoroute, eh bien, vous avez douté. Un petit peu comme Saint-Pierre, lorsque notre Seigneur le met sur l'eau, le fait venir à lui, plus exactement, alors qu'il était sur une barque, il lui demande de le rejoindre. Alors Saint-Pierre se dit, c'est notre Seigneur qui me demande de venir, donc j'y vais. Bon, je vois bien qu'il y a de l'eau, mais j'y vais. Et puis, il commence à douter. Et là, il s'enfonce, effectivement. Et il y a un danger pour lui. Et notre Seigneur lui reproche son manque de foi. Eh bien, il en ira de même de vos résolutions, si vous ne croyez pas en sa puissance et si vous ne croyez pas en sa grâce. Alors oui, vous retomberez. Autre écueil à éviter, c'est de vouloir tellement prolonger les fruits de la retraite, comme on vous y invite, que désormais, tous les midis et tous les soirs, il y aura enregistrement de cassettes pour toute la famille. Donc, sous cet exemple un peu caricatural, évitez d'imposer à tout le monde les bonnes règles que vous êtes données ou même l'ambiance d'une bonne retraite. N'oubliez pas que les autres n'ont pas fait de retraite. En revanche, écueil opposé, ce serait de se dire « moi j'ai pris des bonnes résolutions, mais je ne dois pas les partager ou je ne dois pas en imposer ». Vous avez des grâces, justement, pour faire des petits changements, ou peut-être des gros, s'il y avait des gros désordres à changer dans votre vie de famille, et vous aurez la grâce de faire passer le message. Ça ne se passera peut-être pas toujours de la façon dont vous l'aurez souhaité, débloquera pas forcément demain en arrivant, mais ayez confiance, là aussi, en la puissance de la retraite et de la grâce de la retraite, pour vous dire que le bon Dieu qui vous a inspiré de prendre telle ou telle résolution connaît très bien l'endroit où vous vivez et les proches avec lesquels vous êtes. Alors, encore une fois, il faudra sans doute de la délicatesse, du tact, mais ayez foi en la grâce de la retraite, avec la prudence humaine aussi qui est la base. Évitez aussi de souhaiter des grandes croix. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben c'est bon, moi j'ai compris, là j'ai vécu tellement bien pendant ces 5 jours qu'aucune croix ne me fera peur. N'en demandez pas, le bon Dieu sait faire, de toute façon. Alors vous qui détestiez faire le ménage, vous qui détestiez faire la vaisselle, brusquement vous dites, c'est bon, là je trouverai vraiment une nouvelle vie et j'irai faire la vaisselle de mes voisins. Et je ferai vraiment bien la vaisselle de ma famille et je suis sûr que ça me plaira, alors qu'avant vous détestiez cela. Ben, peut-être que ça tombe bien. Votre mari, votre famille a pensé qu'effectivement ça vous plairait, donc ils ont peut-être laissé toute la semaine la vaisselle s'entasser. Alors, vous mettrez en application votre nouvelle passion. Alors voilà un petit peu quelques écueils qui arrivent assez régulièrement, c'est pour ça qu'on en parle, aux unes ou aux autres, ou aux uns ou aux autres, ça touche les hommes comme les femmes, et qui peuvent évidemment briser un élan ou court-circuiter, soit par excès, soit par défaut, comme je l'indiquais. Et donc, je voudrais aborder maintenant la question de ces résolutions, mais pour en voir l'esprit avec lequel vous devez animer votre âme et en voir un petit peu la grandeur. Le premier point que vous avez souvent abordé dans vos résolutions, c'est la question de la prière. Prière personnelle, prière familiale. Bien, n'oublions pas que la prière est notre façon d'être avec Dieu. C'est, on pourrait dire, notre position face à Dieu. Et c'est donc normal qu'elle soit établie, approfondie, régularisée pour celles d'entre vous qui auraient eu quelques difficultés à la faire régulièrement. Eh bien, c'est normal puisque la prière est ce que Jésus nous a enseigné comme étant le moyen, le rapport premier, facile, de la créature à son Père. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous a enseigné une prière, le Notre Père. Aimer à dire le Notre Père, en chercher le sens, à en trouver des commentaires, à l'approfondir, c'est l'une des prières, évidemment, avec le Je vous salue Marie, que l'on enseigne le plus tôt aux enfants. Ils ne savent pas l'écrire, ils le retiennent dans un premier temps juste pour l'avoir entendu. Et ça n'est pas pour rien que notre Seigneur a montré que c'était la prière la plus parfaite, la plus complète que l'on puisse faire facilement. Donc la prière, ça doit être, on dit, c'est une respiration de l'âme. Ben oui, c'est ça. C'est comme notre respiration physique. Alors, notre Seigneur nous a dit, et saint Paul l'a répété, il faut prier sans cesse. Alors, il ne s'agit pas de prier vocalement sans cesse, mais toute notre vie est comme une prière, doit devenir comme une prière.
Et c'est là qu'on voit que la prière, effectivement, c'est numéro un. C'est-à-dire que, puisque notre vie est un moyen de nous unir à Dieu, c'est-à-dire c'est un élan de réponse à l'amour que Dieu nous a porté, eh bien la prière, au sens strict, et la prière au sens large, c'est-à-dire nos actions faites et en union à Dieu, et dans un esprit de glorification de Dieu, eh bien devient notre activité première. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que nous sommes religieux. Je l'avais indiqué pour l'enfant tout à l'heure. C'est dans ce sens-là. Ensuite, les sacrements. Les deux sacrements que nous recevons le plus fréquemment, l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Eh bien, n'oubliez pas que nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'être nourris sur ce chemin du ciel. Eh bien, nous avons besoin d'une nourriture. Notre Seigneur est cette nourriture. Nous avons besoin d'être guéris de nos blessures. Le sang de notre Seigneur, dans l'absolution, est notre guérison. Il y a donc un complément naturel dans ces résolutions à se dire comment vais-je mieux recevoir ces deux sacrements que je connais bien, mais qui sont peut-être pas suffisamment efficaces dans ma vie ou qui n'étaient pas suffisamment efficaces dans ma vie. Et comme nous cheminons avec notre Seigneur, comme il nous aide avec ses sacrements, nous allons tout faire pour que ces boulets que nous traînons, ces obstacles que nous nous mettons sur le chemin, soient écartés. D'où la recherche et le combat du défaut dominant. Ce défaut dominant n'est pas un exercice de combat contre soi-même. C'est une volonté d'écarter les obstacles, d'ôter ce qui obstrue le chemin du Christ dans notre âme. Et c'est en ce sens-là qu'il faut l'entreprendre, cette recherche et ce combat du défaut dominant. Et ainsi, une fois qu'on se connaît mieux, que l'on connaît mieux la faille, que l'on voit tout de suite là où on penche, eh bien, en se connaissant mieux, on va être beaucoup plus disposé à se donner à Dieu. À la fois comme nous sommes, parce que Dieu nous connaît bien et il nous aime quand même malgré nos défauts, malgré ce défaut dominant, malgré nos inclinations mauvaises, mais en même temps, nous connaissant mieux, nous allons appeler sur nous les grâces dont nous avons réellement besoin pour nous corriger et pour que Dieu, qui se satisfait de nos faiblesses, eh bien, prenne davantage la place que nous lui ferons, justement. Et nous avons donc besoin pour ce combat, que ce soit du défaut dominant ou la fuite des occasions dangereuses, de la vertu de force. Et la vertu de force, elle touche la volonté. Et elle va fortifier cette volonté jusqu'à la rendre tenace, j'allais dire, même dans les difficultés. C'est la persévérance.
Voilà.
On se rend à la chapelle.